Célé,
Seconde,
Sapate,
Serviceau,
Personne
et au
territoire
de
la Vacan
avec
Eva,
Marion,
Élise,
Clémence,
Lucie,
Léa,
Soraya,
Samantha,
Flavie,
Victoria,
Alicia,
Angelina,
Emma,
Alicia.
Bonjour, nous sommes les secondes sapates du lycée Lavacan. Je suis Emma avec un M.
Et je suis Élise.
Nous vous accompagnerons durant toute l'émission.
Notre émission porte sur le thème habiter. Nous avons d'abord cherché plein de mots qui sont en rapport avec cette thématique, comme par exemple maison, association caritative, l'internat, la rue et plein d'autres encore.
Puis, pour nous éclairer sur le sujet, nous sommes allés faire des interviews pour répondre à deux types de questions. Tout d'abord, comment vit-on le fait de devoir quitter son habitat, son environnement, bref, son lieu de vie?
Pour y répondre, nous sommes allés dans une maison de retraite, mais aussi rencontrer des exilés au CADA à Auch. Mais nous avons aussi abordé le thème en interviewant des passionnés de construction et de rénovation qui ont fait des choix peu communs pour leur habitation. Pour commencer, nous vous proposons les papiers de Clémence, Alicia N et Flavie.
Je vais vous raconter l'histoire de Soraya. Elle habitait dans une grande maison avec une grande cour et un jardin. Elle adorait jouer dans cette petite rue avec son ruisseau. Elle était alors âgée de 8 ans, elle faisait du vélo sur sa petite route devant chez elle. Elle jouait avec son nouveau vélo et d'un seul coup, elle fit une marche arrière en faisant bip bip. Bien évidemment, elle n'avait pas de radar de recul à cette époque-là. Et plouf, dans le ruisseau. Elle arrive jaune. Elle enleva ses chaussures car elles étaient remplies d'eau, donc lourdes, et elle ressortit du ruisseau avec son vélo à la main. Elle rentre dans sa maison et dit à sa mère « Maman, je suis tombée dans le ruisseau !» Sa mère rigola, mais pas très contente, elle gronda. Elle lui demanda où étaient ses chaussures et elle a dit « Ben je les ai laissées dans le ruisseau !»
Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que mon amie Angèle m'a racontée. Ça s'est passé quand elle était petite et qu'elle habitait à Praville, près de Chartres, dans le 28. Elle vivait dans une belle et grande maison avec un grand jardin. Pendant un été, avec sa sœur Abby et ses parents, pour pouvoir s'amuser en famille, ils ont eu l'idée tous les quatre de construire une cabane avec des matériaux de récupération, comme des tôles qui leur ont servi de murs et des palettes comme toit. Angèle et sa sœur ont mis beaucoup de temps et de cœur à construire cette cabane. Elles ont aussi eu beaucoup de joie quand elles ont réussi à la finir et qu'elles pouvaient enfin y passer du temps, sauf qu'après la construction, Abby et Angèle n'y sont jamais ou pratiquement jamais retournées puisqu'elles avaient très peur des grosses araignées noires qui squattaient leur cabane.
C'est l'histoire d'Élise. À l'âge de ses 9 ans jusqu'à l'âge de ses 13 ans, elle habitait dans un immeuble à Eos, de 5 étages. Et elle se situait au 3e. Et tous les jours, elle retrouvait ses amis, Asma, Wissal et Kaltoum, à partir de 9h jusqu'à 18h tous les jours. Elles allaient gratter des sous au maire de la cité, les darons comme elle les appelait. Il y avait une école primaire du nom de Félix Soulès, une maternelle du nom de Beausoleil et un gymnase très grand. Elle se posait au bac à sable juste à côté. Et tout ça était son univers pendant l'été. C'était comme elle disait, leur territoire. Elles adoraient aller à la piscine le samedi et le mercredi, mais il fallait marcher 2 km quand même pour y arriver. Du coup, elles faisaient des batailles d'eau sur la route. Puis badaboum, un jour, fin des vacances 2015, Élise a dû déménager à Bordeaux. Elle a donc perdu tout contact avec ses amis.
Les secondes,
sapates,
font de la
radio.
Le premier reportage que nous allons vous diffuser est celui de Flavie, Clémence, Soraya et Alicia R.
Sur le thème d'habiter la maison en terre.
Flavie, c'est à toi.
Bonjour, Soraya, Clémence, Alicia et moi sommes allés voir un gîte construit selon les principes de l'éco-construction qui se situe à l'île Arnée. Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par Gérard Vivès, le propriétaire et constructeur du gîte. Nous étions dans la campagne, il y avait beaucoup de verdure. Nous avons passé une heure avec lui, il nous a expliqué pourquoi il avait choisi ce métier. Alors, après avoir travaillé presque 30 ans dans ce domaine, il est maintenant à la retraite. Nous avons pu visiter son gîte et même son atelier. Je vous laisse avec lui pour découvrir notre reportage.
Moi, je suis Gérard Vivès, je suis maçon-briquetier et je suis aussi formateur professionnel. J'enseigne les techniques de construction à base de terre crue à des futurs professionnels.
Où est-on situé par rapport à Auch ici ?
Ici, on est à 20 km d'Auch. On est sur le petit village de l'île Arnée. Vous êtes sur une ancienne ferme que j'ai restaurée en habitation et en gîte.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'il y a autour de nous et comment ça s'est construit ?
Ici, c'est l'entrée du gîte. Certains pensent à une chapelle. On est sous une coupole. Juste à côté, c'est une voûte. C'est comme des arches. Et tout ça, c'est fabriqué avec des briques de terre.
Pendant combien de temps avez-vous exercé ce métier ?
J'ai exercé ce métier pendant 25 ans environ. C'est un métier qui m'a beaucoup plu.
Qu'est-ce qui vous a fait changer de métier ?
Plein de choses, mais je suis paysan d'origine. J'étais agriculteur, mais je n'étais pas agriculteur qui faisait de l'écologie. Ça ne me convenait plus. Je mettais des engrais, je voulais passer à l'agriculture biologique, donc je vous parle il y a 35 ans à peu près. Ça a été très compliqué dans le département ici. J'étais parmi les premiers à vouloir changer ce système. Et j'ai par hasard, je suis tombé sur une formation, une annonce comme ça. Ici, ça m'a sensibilisé au bâti de terre. Et du coup, j'habitais dans une maison en terre plus ou moins sans y faire trop attention. Et c'est là que je me suis aperçu la qualité de la maison dans laquelle j'habitais. Et ça m'a sensibilisé. Et la santé dans l'habitation, la santé des habitants, enfin, etc. Et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, j'ai compris aussi à ce moment-là que je pouvais peut-être le recréer, parce qu'il est très vieux ce métier.
Pourquoi le nom d'éco-construction ?
Éco-construction, ça veut dire construction écologique. Donc, on est sur des techniques, ça veut dire naturelles, des techniques naturelles. Il n'y a pas de produits chimiques dans ce qu'on fait. Il y a une notion aussi de proximité du matériau. Je fais des briques de terre, la terre, je l'extrais à côté de la maison que je vais réparer ou construire.
Avez-vous des employés ?
Aujourd'hui, non, moi, j'ai plus d'employés parce que je suis à la retraite depuis 3-4 ans. Dans 20 ans, j'ai eu entre 3 et 5 employés tout le temps.
Dans quelle zone géographique avez-vous construit les maisons en terre ?
Au début, j'allais un peu loin parce que j'étais pas prophète dans mon pays. Au départ, j'avais pas mal de chantiers un peu loin. C'était dans le Lot, dans le Tarn, un peu l'Haute-Garonne. Il m'est arrivé de faire des très gros chantiers assez importants parce qu'ils étaient intéressants.
Combien de maisons avez-vous construites ?
Alors, maison construite, je dirais pas zéro, mais presque. J'ai jamais construit de maison entièrement en terre crue. Donc je faisais un mur ou deux, parfois dans une maison neuve qui était souvent des maisons en bois. J'ai restauré par contre des maisons entières en vieille maison à retaper.
C'est vous qui faites les briques ?
Alors oui, je suis briquetier, donc je fabrique des briques, j'ai des machines, j'extrais la terre ici sur place et après on transforme.
Est-ce que tu peux expliquer le procédé ?
Oui, tout ce qui est là, la cheminée, enfin, la coupole, la voûte, c'est... Ça doit être dans les 3000 briques. Après la cheminée, c'est 1000 briques, je crois. Le procédé, c'est extraire la terre dans le sous-sol. On enlève la terre végétale. La terre végétale, c'est la terre en surface, qui est les 30 ou 40 premiers centimètres, qui sert à la culture. Il y a de la moisissure, il y a des feuilles, qui pourrissent, il y a du bois. C'est des terres qui sont à base d'argile. Et c'est ça qui fait que les briques deviennent dures et costauds. Donc c'est une brique que je fais aujourd'hui, je la poserai dans 2 mois.
Y a-t-il des odeurs particulières ?
Alors, ce qui m'a capté d'ailleurs quand j'ai fait la stage, c'est l'odeur de la terre mouillée qui est géniale. Ma racine, moi, c'est comme ça que j'ai été capté d'ailleurs. Quand j'ai fait cette formation, l'architecte qui faisait la formation a mouillé la terre là pour faire la nuit. Je sens une odeur, c'est la même odeur que du labour. Et pour moi, c'était capital.
Quels sont les avantages de vivre dans une maison en terre ?
Le confort thermique, ça protège du chaud. C'est moyen pour le froid, il faut reconnaître. Mais ça empêche la chaleur de rentrer. Ça, c'est intéressant. Dans la chaleur, ça ne va pas, elle est stockée. Et elle est restituée pendant des heures. Et il y a une confort acoustique. Confort acoustique, c'est la capacité à amortir le bruit. La beauté, c'est un confort. Hein. Enfin, la beauté du lieu, le plaisir des yeux. pour moi c'est du confort, de la santé dans l'habiter. On n'est pas pollué par son habitation. Parce qu'on peut aussi la déco, vous voyez, enfin, on fait plein de couleurs, on intègre des couleurs, et ces couleurs, c'est des couleurs végétales, c'est des couleurs naturelles, c'est pas des couleurs chimiques.
Et du coup, les inconvénients, c'est quoi ?
Non, les inconvénients, c'est le travail de la réalisation. C'est un métier physique, c'est un peu long à mettre en œuvre, à fabriquer des murs. Ça coûte plus cher de bâtir une maison en terre, par exemple, que de la bâtir en parpaing-ciment.
Quels sont les autres matériaux utilisés ?
Ça aurait pu être un peu de pierre, mais ici, non, il n'y en a pas. Ici, il y a des murs en paille, j'ai la fibre de bois. C'est de la laine de bois, c'est comme la laine de verre, de la paillette de chambre ou un autre matériau, briques de terre cuite.
Est-ce que la pluie abîme les constructions en terre ?
Oui, par exemple, un mur exposé à la pluie, s'il est en terre, il va se dégrader. On y fait un ennui avec un peu de chaud qui stabilise.
Est-ce que les maisons en terre, elles prennent l'humidité ?
Elles peuvent prendre l'humidité si on n'a pas géré l'humidité. Il y a des drains qui donnent de l'aération, ces sensations d'humidité. C'est pas très bon pour la santé.
Comment faites-vous pour installer l'électricité, le chauffage et l'isolation ?
Alors, l'électricité, techniquement, c'est un peu compliqué, mais c'est plus de temps. Les briques de terre, elles se taillent pour faire les petits trous. Et après, il y a les gaines qui passent dans des saignées. Sur le chauffage, c'est un peu la même chose, si on met des radiateurs. Là, il y a des murs chauffants qui sont intégrés dans le mur. C'est des chaleurs rayonnantes et assez idéal, quoi. Ça ne consomme pas trop d'énergie. Et ça restitue la chaleur de très bonne manière. Après l'isolation, c'est pareil que pour les autres techniques.
Quel est le prix estimé d'une maison en terre ?
Un mur en terre coûterait 20 à 30% plus cher qu'un mur classique.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Aucun chantier n'était pareil. À chaque fois, c'était très différent. Donc, il y a une réflexion qui était à faire, réfléchir avec les gens, faire des propositions. Il y a de la recherche, quoi. C'est ça qui me plaisait beaucoup.
Venez chez moi, je vous invite dans mon palais présidentiel. Il y a la suite de jacuzzi et la cuisine vue sur le ciel. Venez chez moi, je vous invite dans mon jardin interminable. Nos soirées tellement magiques et la familia à la table. Venez chez moi, je vous convie dans ma piscine au bord de l'eau. Il y a le soleil, jamais l'ennui, des cuisiniers, des grands restos. Allez, ne soyez pas timide, ici vous serez accueillis comme nulle part vous le serez, que qu'à New York ou à Paris. Et qu'est-ce que l'on dit? Viens chez nous si tu as besoin. Ce n'est pas le paradis, mais ça changera de ton quotidien. Pas besoin de merci, tant qu'on peut, on se tendra la main. La vie n'est pas un fleuve tranquille, on ne choisit pas sa naissance. Qu'on soit d'ici ou bien d'une île, le vrai problème c'est l'ignorance. J'ai voyagé dans 1000 villages, des visages collés à 1000 fenêtres. Je n'ai gagné que le courage et le plaisir de vous
c'est
connaître.
C'est dans la bonne humeur que nous nous reverrons. C'est la main sur le cœur que nous vous accueillerons. Nous parlerons de tout, de nos souvenirs. Si vous avez besoin, vous savez chez qui venir. Et qu'est-ce que l'on dit? Viens chez nous si tu as besoin. Ce n'est pas le paradis, mais ça changera de ton quotidien. Pas besoin de merci, tant qu'on peut, on se tendra la main.
Jacuzzi, ce n'est qu'une douche. Pas de Bali ni de Havane, mais il y a la route et rien de louche. Les grands cuistons, c'est la maman. Pas de suite ni de cinéma, mais le bonheur, il est.
C'était Candy Girac, viens chez nous. Nous allons écouter les papiers de Samantha, Angelina et des deux Emma, qui évoquent aussi très bien notre thématique.
Je vais vous raconter une histoire de Marion, qui est une amie à moi depuis toujours. Ça se passe dans sa maison, qui se situe à Mauvezin, dans le Gers, où elle vit depuis 7 ans avec sa mère et ses frères. Sa maison est décorée pour les fêtes, le salon avec des guirlandes et la table parfaitement mise avec une belle nappe et des paillettes en décoration de table. Le matin du Nouvel An, sa mère lui demande de préparer 2 bûches pour le repas du soir, où est invité Hugo, son copain, la sœur à Hugo, le copain de la sœur à Hugo, sa tante, son oncle et ses cousins. Donc elle prépare la première bûche, qu'elle réussit, mais en préparant la deuxième, sa crème à la vanille et au chocolat est trop liquide. Elle ne l'a pas laissée assez cuire, donc elle n'était pas assez épaisse. Elle s'inquiète beaucoup, la bûche n'était pas bien présentée. Arrivée au dessert, elle sort ses bûches et les invités l'ont trouvée très bonne. Ils s'en fichaient qu'elle soit ratée parce que c'est l'intention qui compte et qu'en plus, elle était très bonne. Elle aime sa maison car c'est l'endroit où elle passe beaucoup de temps avec sa famille. C'est un endroit qui les réunit et qui les rend heureux.
Je vais vous raconter une histoire qu'une de mes amies m'a racontée. Ça s'est passé au début d'année scolaire, à l'internat du lycée, dans la chambre de la surveillante. Alicia et 2 autres filles internes discutaient avec la surveillante. Elle leur racontait tous les 400 coups qu'elle faisait lorsqu'elle était au lycée à l'internat. Elle a raconté aux filles comme quoi, pour s'amuser, elle avait enlevé le soulier du lit d'une de ses amies. Puis la fille en question s'est jetée sur le lit et avec la surveillante, elles ont explosé de rire. Alors Alicia a voulu reproduire la scène. Alors avec la surveillante et ses 3 jeunes lycéennes organisaient tout pour faire cette petite blague à l'une de leurs camarades. Quelques heures plus tard, tout était prévu. Le sommier était enlevé du lit, il était caché pour qu'elle ne se doute de rien du tout. Il fallait juste s'organiser pour que la fille prise pour cible se jette sur le lit. Alicia a trouvé une solution. Elle avait proposé à la fille de faire une course et celle qui arrivait avant devait se jeter sur le lit. Alicia laissa exprès gagner sa concurrente, puis la jeune fille se jeta sur son lit et finit par terre. Elle avait traversé le lit. Les filles de l'internat et la fille en question se sont mises à rire. Cela prouve qu'à l'internat, on passe des bons moments. C'est comme une deuxième famille.
Donc, je vais vous présenter l'histoire de Victoria. D'ailleurs, elle préfère qu'on l'appelle Vic. Donc, la maison des grands-parents de Victoria, elle est immense, elle est moderne et tous les murs, ils sont blancs. Il y a plein de statues de poules partout parce que ses grands-parents ils adorent les poules. Enfin, ils ont aussi un cheval, 3 canards et 2 moutons. D'ailleurs, une fois, les moutons ils ont mangé des saucisses de porc alors que son grand-père il devait donner le mouton à des musulmans. Donc, quand Vic va chez ses grands-parents, donc c'est souvent le jeudi parce que c'est le jour du Seigneur pour les Juifs. À chaque fois qu'elle mange du rôti de bœuf, ça lui rappelle une anecdote assez drôle. Donc une fois, donc c'était un jeudi soir, Vic était chez ses grands-parents du coup, et sa grand-mère, elle faisait du rôti de bœuf. Et Vic, elle est passée devant et elle a dit « Ah, on mange du porc !» Sauf que son grand-père, eh bien, il est juif, et sa grand-mère aussi. Et du coup, dans leur religion, ils n'ont pas le droit de manger de porc. Mais du coup, son grand-père, il s'est énervé et il l'a mis dehors sous la pluie. Il lui a dit « Comme ça, tu te laveras de tes péchés. J'espère que chez toi, tu ne manges pas de porc. » Et environ 10 minutes après, il y a sa tante qui est arrivée et elle lui a demandé « Qu'est-ce qu'elle faisait là ?» Elle l'a ramené, comme ça, elles sont rentrées toutes les deux à l'intérieur. Une fois que c'était à l'intérieur, son grand-père, il a vu Victoria a pris le plat, il l'a posé sur la table et il a dit « T'avais raison, ma chérie, c'est du cochon. » Parce qu'en fait, sa grand-mère, elle a pris du porc. Et du coup, elle avait raison. Du coup, au final, ils ont mangé que des frites et du jambon de poulet.
Je vais vous raconter l'histoire d'Alicia. Quand elle avait 4 ans, Alicia était avec sa sœur Pamela dans son jardin. Elles étaient toutes les deux à la balançoire, leur endroit préféré du jardin. Pamela était en train de pousser Alicia, puis tout d'un coup, elle l'a poussée trop fort. Alicia est tombée et s'est fait une entorse à la cheville. Suite à cela, Alicia était très déçue parce qu'elle ne pouvait plus faire de balançoire.
Sur le thème d'habiter la maison de retraite.
Nous écoutons maintenant le reportage d'Emma, Samantha et Emma qui se sont rendues dans une maison de retraite. Samantha, peux-tu nous en parler ?
Bonjour, je suis Samantha et mardi 29 janvier, nous sommes allées avec les 2 Emma à la maison de retraite Les Petites Sœurs des Pauvres à Auch. Nous avons eu la chance de rencontrer une résidente vraiment très gentille, Jacqueline, qui a répondu à nos questions. Elle nous a expliqué comment se passe la vie dans, comme elle appelle, sa maison.
Alors, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors,
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, je suis sœur Agnès. Je suis religieuse, je suis sœur de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres.
Quelles sont les valeurs des Petites Sœurs des Pauvres?
Alors, les Petites Sœurs des Pauvres, c'est le nom qu'il explique. Hein, c'est le nom qui dit petite, qui dit sœur et qui dit pauvre, des pauvres. C'est une congrégation, donc une famille religieuse qui existe depuis 1839 et qui, depuis son origine et jusqu'à maintenant, accueille des personnes âgées. Hein, donc là, aujourd'hui, on dit que c'est une maison de retraite. Mais c'est une maison de retraite qui s'appelle Ma Maison. Hein, donc les personnes âgées, certes, quittent leur maison, quittent ce qui reste de leur famille, mais nous voulons les accueillir à Ma Maison et que ce Ma Maison devienne aussi quelque chose qu'elle puisse dire, elle, je suis à Ma Maison. Et quand c'est une personne âgée qui le dit, voilà, je peux dire que c'est ma plus grande joie que d'entendre une personne âgée arriver à l'accueil alors qu'on vient de rentrer ou qu'elle rentre de sa famille même et qui dit « ça y est, je suis chez moi, je suis à ma maison ». Et donc tout est fait pour que ça puisse être, devenir leur maison, ma maison pour chacune d'entre elles. Et ça, ça se fait déjà, en les considérant comme étant des personnes uniques.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Il y a du pain.
Bonjour.
Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour. Bonjour.
Alors, moi, j'avais prévu, il n'y a pas... Y a pas assez... Ah ben, je ne te voyais pas, toi.
Je sais, je suis invisible.
Attends, vas-y. Il y en a une autre là-bas, oui. Je m'appelle Madame Poiraudot, Jacqueline, j'ai deux prénoms, Jacqueline, Maria. Je suis née le 14 février 1924.
Est-ce que vous vous sentez comme chez vous?
Ah oui, tout à fait. Et je vais même vous préciser qu'en 2004, en 2003, j'ai fait une préparation pour être, comment dirais-je, pour rentrer dans l'association Jeanne Jugan. C'est-à-dire, vous êtes, étant membre de cette association, vous êtes très près des sœurs. C'est un engagement spirituel et à la fois aussi matériel. Parce que vous aidez, voilà.
Êtes-vous aussi libre que chez vous?
Oh, oui, 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 on est... On a vraiment une grande liberté. On peut aller en vacances, on peut sortir. Avant, j'avais la voiture, donc je sortais. Après, à pied, puis maintenant, je ne sors plus. Parce que je ne peux plus.
Est-ce que vous vous ennuyez de temps en temps?
Non. Non, moi, je ne m'ennuie pas. Parce que entre les offices et puis entre... Moi, je suis beaucoup papier, alors j'ai toujours quelque chose à faire.
C'est-à-dire beaucoup papier?
Par exemple, au début, vous aviez Jessica. Elle n'était pas là. Bon, il y avait Caroline, mais il n'y avait pas de... Alors, lorsque nous avions des réunions, c'était moi qui prenais les notes. Je faisais après, c'était condensé, donc je refaisais le rapport que je soumettais à Mère Aimée. À l'époque, c'était Mère Aimée.
De chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre?
Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Il y a d'abord un fauteuil dans lequel je me repose. Après, un lit. Vous savez à quoi ça sert? Voilà. Bon, en espérant faire des beaux rêves. Après, bon, vous voyez, j'ai une grande armoire comme dans chaque chambre. Voilà. Alors après, comme meuble, j'ai une table, vous voyez, une petite table. J'ai un bureau, il faut ça. Et puis j'ai une table roulante qui est très bien. Ah là, la photo que vous voyez, il y a 5 personnes. Alors, les 3 filles, là. À gauche, c'est moi, voilà. Oui. Là, c'est ma jeune sœur, nous avions 13 mois d'écart. Après, c'est ma grande sœur, nous avions 18 mois d'écart. Alors là, c'est le plus jeune, le petit frère. Et là, c'est le grand frère. Voilà, un garçon, 3 filles, un garçon.
Finalement, ça vous plaît de vivre ici ?
Si ça me plaît d'être ici, ah oui, 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 oui. Je suis très, très contente d'être ici, oui. Parce que, vous voyez, bon, comment je vous dirais, moi, le personnel est très gentil, c'est vrai, très... non, mais réellement, mais les sœurs, il y a autre chose, je ne pourrais pas expliquer, quelque chose qui émane d'elles, mais que je ne peux pas arriver à expliquer. Ici, on est en famille, tous les résidents, les résidentes, moi, on se connaît à peu près tous.
Nous avons aussi rencontré la directrice de cette maison de retraite, Mère Agnès, qui vit aussi, bien sûr, dans ce lieu. Elle nous a accordé un peu de son temps pour répondre à nos questions et nous expliquer comment elle organise, la vie des résidents dans la structure. Elle nous a aussi raconté sa manière d'habiter ce lieu.
Est-ce que les gens ont de l'appréhension avant de venir ici ?
Ah, je pense que oui. C'est énorme ce qu'il leur est demandé de vivre. C'est énorme ce qui est demandé de vivre. Hein. Surtout ici où on est dans un milieu plutôt rural, certaines personnes sont nées dans la maison qu'elles quittent. C'est énorme. Hein, c'est énorme, mais les parents, des fois, étaient déjà là avant et toute la famille depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un lieu qui coûte. C'est aussi des personnes qui ont, pour certaines, travaillé à la terre. Hein, cet attachement à la terre, il est très fort. Surtout ceux qui ont travaillé là, dans cette ferme-là ou passé toute une vie, simplement. Hein, quand on est dans un lieu, il y a des tas de souvenirs. Donc, ça, c'est dur. Hein. Donc, ça, je pense qu'il faut reconnaître que c'est quelque chose qui est un gros pas, un grand pas à passer, et qui peut être un pas douloureux.
Est-ce qu'il y a des résidents qui n'ont pas réussi à s'adapter ?
Oh, on va dire sûrement. On va dire que pour certains, c'est sûrement plus compliqué. Là, j'ai par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Il y en a un, c'est pour de ceux que je connaisse là récemment. Hein, après, je ne peux pas tout dire. Mais... c'était un monsieur plutôt bien valide qui était arrivé fatigué et donc qui avait demandé à être admis parce qu'il se sentait fatigué, puis qui a récupéré, qui était mieux et qui a fini par dire « ma place, non, je suis trop bien pour rester en maison de retraite » et qui a demandé à repartir et à trouver un autre lieu d'accueil qui lui semblait mieux. Voilà. Et puis un peu plus tard, je l'ai appris, il n'est pas revenu ici, mais il est allé dans une autre de nos maisons où il y avait ce qu'on appelle des logements autonomie ou des logements, ce qu'on appelait avant des logements foyers, c'est-à-dire comme un petit appartement où il peut... Oui. Voilà. Donc il était moins avec simplement une petite chambre et c'est passé comme ça. Vous voyez. Donc, mais là, c'était plutôt quelqu'un de bien valide. Et après, oui, il y a des personnes pour qui ça peut être un peu plus compliqué. Moi, je vois un petit peu ici actuellement, je pense spécialement à une. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais elle participe très peu à la vie de la maison. Alors, elle a la malchance d'être aveugle et puis de peut-être avoir des oreilles qui sont aussi pas impeccables. Et tout ce qui va être animation, sans les yeux et sans forcément quelqu'un à côté qui a le souci de lui expliquer tout ce qui se passe, si ça fait en plus un peu trop de bruit, c'est compliqué. Voilà. Et donc, elle passera beaucoup de temps. Alors, ça se passera bien avec elle si on est seul à seul. Hein, donc là, on essaye de privilégier ça. Il y a une bénévole qui vient, qui l'amène faire un petit tour de jardin ou discuter un moment avec elle. Vous voyez, c'est là où il faut être très, très... On est unique. Hein. Certaines personnes, vous les verrez dès le lendemain, ils seront au milieu de tout le monde et ça va bien se passer. D'autres, il faut du temps. Et puis, surtout, on n'a pas envie d'être avec tout le monde. Hein. On est bien tranquille chez soi et ça me va bien. Pourquoi on ferait autrement ? Voilà. Mais au plus, au plus vraiment, on va essayer de considérer chacun. Ça prend du temps, hein, parce que autant la personne doit s'habituer et s'habituer à la maison, s'acclimater à la maison, prendre ses repères, autant tout, nous, petites sœurs et l'ensemble des salariés qui travaillent ici, c'est pareil, il faut prendre le temps de connaître. Alors des fois, on a une famille qui est autour, qui est capable d'un peu de nous expliquer, mais des fois, il n'y a pas. Et il faut prendre le temps de connaître. Elle aime bien ci, elle n'aime pas ça. Et puis elle a le droit de changer d'avis. Si elle n'aime pas ça un jour, peut-être elle l'aimera le lendemain. Ça aussi, ils ont le droit. Hein. Il ne faut pas toujours refermer. Oh non, elle n'aime pas le chocolat. Elle a dit ça à l'entrée, mais peut-être que quelques années après, bah si, c'est bon le chocolat.
Comment ça se passe lorsqu'il y a des couples ?
Ben, les couples sont, dans la mesure du possible, accueillis dans des chambres doubles, donc où ils sont ensemble. Hein. Et après, ben, c'est selon. Là, on en a accueilli un. Il fallait qu'ils aient le lit à côté. On a mis le lit à côté. Il y en a d'autres, à la limite, demanderaient presque qu'ils ne soient pas dans la même chambre. Ça dépend. Hein. Vous savez, tout dépend aussi l'état de santé de l'un et de l'autre. Après, pour les couples qui se créent dans la maison, bon, ben, moi, j'ai pas énorme, je suis encore une sœur pas trop âgée, mais j'ai pas trop d'expérience de ça. Mais si, ma foi, ça doit se faire, et ben, on tâchera de le prendre en compte, ça fait partie de la vie. Hein, voilà. Hein, bon, je pense qu'il faut rester vigilant.
À présent, écoutons les récits que nous proposent Élise, Léa et Soraya.
Je vais vous raconter une histoire que Flavie m'avait racontée. Donc, quand elle était petite, vers l'âge de 7 ans, elle allait chez ses grands-parents à Cahors. Donc, il y avait ses cousins, sa mère et tout ça. Et vu qu'il faisait trop de bruit dans la maison, tout le temps, il la mettait en bordel. Son grand-père a décidé de construire un chalet en bois à côté de la maison pour donc il y avait des WC, tout le confort qu'on peut avoir dans un hôtel. Pour dormir, il possédait qu'un clic-clac et un lit superposé. Mais il y avait un souci. Sa mère ne voulait pas que les enfants dorment sur le lit du haut, car d'après elle, c'était trop dangereux. Elle l'arrangea à sa sauce. Fabien, son grand frère, il allait dormir sur un matelas par terre pendant que Flavie se la coulait douce devant lui sur le canapé avec sa mère. Quand ses quatre cousins venaient, leur mère leur autorisait à dormir sur le lit du haut. Flavie et Fabien ressentaient comme un sentiment d'injustice. C'était une enfant culottée. Quand sa mère s'absentait, ses cousins l'aidaient pour monter dans le lit du haut. Comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Malheureusement, un jour, sa mamie eut un accident et son papy décida de lui aménager le chalet et de dégager toute la famille. Cette période fut dure pour Flavie car elle voulait absolument dormir dans le lit du haut et au lieu de ça, elle s'est coltiné le lit avec sa mère jusqu'à ses 14 ans.
Je vais vous raconter une histoire que Lucie m'a confiée. C'était au mois d'août 2018 à Marseillan dans l'Hérault, chez son tonton Dominique dans une grande maison en pierre moderne. Cette maison est au bord de la mer située dans un petit quartier. Les vacances rêvées, comme on peut dire, Lucie avait invité une pote à elle et sa mère les accompagnait. Ça faisait 2 années de suite qu'elle partait en vacances à Marseillan. Elle se sent bien car elle est entourée de sa famille et de ses amis. Oui, car on peut dire qu'elle fait beaucoup de rencontres. Comme tous les soirs, son tonton préparait un barbecue et ils s'installèrent en face de la terrasse à l'étage. Habituellement, il y a une bonne ambiance, ils rigolent et discutent normalement. Mais ce soir-là, il y avait des tensions. Son tonton et la mère de Lucie commençaient de plus en plus à s'engueuler, les esprits s'échauffaient. On peut dire que des merveilleuses vacances tournent à la catastrophe. La mère de Lucie prise sur un coup de tête de partir le lendemain alors qu'elle restait encore une semaine. Lucie reviendra-t-elle en vacances à Marseillan ?
Clémence.
Elle habitait dans un corps de ferme au milieu des champs, sauf que c'était des champs de vaches et Clémence a toujours rêvé de gambader dans ces champs. Ses parents l'avaient toujours interdit d'y aller, jusqu'au jour où Clémence se rebella, ne les écouta pas et porta l'aventure. En rentrant dans le champ, elle se frit une décharge électrique. Aventurière qu'elle est, elle continua à sa bêtise. Dans ses mains, elle avait à manger du fouet. Les vaches, voyant du fouet, ont commencé à courir vers elle. Elle trouva ça très drôle, quand d'un coup, elle trébucha sur de la paille et se mangea les ronces. Aïe, 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 les vaches couraient toujours derrière elle. Hashtag, elle a vu la mort derrière elle. Quelques heures après, ses parents la cherchaient, ils attendirent des pleurs et la retrouva dans le champ avec les vaches et puis se faisait gronder.
Angelina, Victoria et Elise sont allées visiter le CADA, écoutant leur reportage présenté par Victoria.
Sur le thème Habiter CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Le jeudi 30 janvier, Angelina, Élise et moi sommes allés accompagner de M. Rouziès au CADA à Auch. Le CADA est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Nous y sommes allés pour interviewer Mme Badrork, chef de service et une résidente. Nous voulions notamment savoir ce qu'est une demande d'asile, comment accède-t-on au CADA, pourquoi des personnes vont au CADA, quelles y sont les règles. En arrivant, nous avons d'abord fait une visite de toute la structure. Nous avions été très bien accueillis avec un goûter de bienvenue. Ensuite, nous avons rencontré une résidente qui se nomme Sarah, réfugiée du Tchad, avec sa fille de 3 ans. Son témoignage nous a beaucoup touchés. Je vous souhaite à présent une bonne écoute.
Kamar Djoba.
Assalamu alaikum.
Kamar Djoba.
Kamar Djoba.
Bon dia.
Salam.
Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ?
Alors, un demandeur d'asile, c'est une personne qui a quitté son pays pour demander une protection. Voilà, il a quitté son pays parce qu'il était en danger dans son pays et il devient demandeur d'asile de manière officielle. Une fois qu'il est passé à la préfecture en France et qu'il a déposé un dossier auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Si la réponse est positive, on les garde au CADA 3 mois supplémentaires pour les aider à trouver un logement. Et si la réponse est négative, ils ne peuvent rester que 30 jours dans notre centre.
En quoi consiste votre travail au sein du CADA ?
Alors nous, on s'occupe tout d'abord de l'hébergement des résidents et aussi de leur accompagnement administratif, social, médical et bien sûr l'accompagnement pour la procédure de demande d'asile.
Combien de logements contient la structure ?
Alors on a une quarantaine d'appartements à Auch et une dizaine à l'île Jourdain.
À quel genre de situation avez-vous déjà eu affaire ?
Alors, on a beaucoup de situations marquantes. Les personnes qu'on héberge et qu'on accompagne ont un parcours de vie souvent dramatique. Ils ont d'une part connu dans leur pays d'origine des événements dramatiques et après ce qu'on appelle le parcours migratoire, c'est-à-dire le parcours qu'ils ont fait entre le départ du pays et jusqu'à leur arrivée en France est souvent très très compliqué et nous on est un peu on reçoit toutes ces informations donc c'est régulièrement on est confronté très souvent effectivement à des situations dramatiques et marquantes.
Est-ce qu'il y a beaucoup de familles ?
Alors, à l'origine, on n'avait que des familles. Depuis 2015, on a donc sur 185 résidents actuellement, On doit avoir une vingtaine de familles. Et après, le reste, c'est ce qu'on appelle les isolés. C'est des hommes seuls.
Combien d'enfants accueillez-vous approximativement?
Une quarantaine, je dirais, aujourd'hui.
Je m'appelle Angelina, je suis en seconde pro SAPAT, donc service aux personnes et au territoire. Et je vais vous poser quelques questions. Donc comment vous appelez-vous?
Bonjour, je m'appelle Anadif Sarah et je suis résidente au CADA.
Pour quelles raisons aviez-vous quitté votre pays?
Pour des raisons de sécurité. Je n'avais pas la sécurité chez moi et du coup j'ai quitté le pays.
Vous venez d'où?
Je viens du Tchad.
Depuis combien de temps êtes-vous ici?
Depuis 2 ans.
Avec qui êtes-vous venue?
Avec ma fille.
Elle a quel âge, votre fille?
Elle a 3 ans.
Est-ce que cela a été facile d'être acceptée en France?
Oui, c'était pas très difficile, ça va quand même.
Est-ce que vous avez bien été accueillie?
Oui.
Pour vous et votre fille, est-ce qu'il y a des activités qui vous plaisent?
Là, ma fille, elle part déjà à l'école. Et moi, je fais rien pour le moment. Il n'y a rien à faire maintenant.
Mais qu'est-ce que vous aimeriez bien faire comme travail?
Pour le moment, je ne fais rien, mais je ne sais pas dans l'avenir. Quand je finis ma procédure et que tout aille bien, je vais penser quand même à faire quelque chose.
Où est-ce que vous en êtes dans votre procédure?
Là, je suis au recours parce que j'ai eu négatif à l'OFPRA. Et ma fille, elle a eu positif. Du coup, ma fille, elle est reconnue réfugiée et moi, non. Donc, je suis... Je recours pour le moment et j'attends la convocation pour voir ma situation.
D'accord. Ça fait combien de temps que vous attendez?
Je crois 6 mois parce que c'était depuis août 2018 que j'ai eu la réponse. Donc je me suis lancée dans le recours et puis j'attends toujours la convocation.
Je ne vous ai pas posé la question, mais vous avez quel âge?
J'ai 23 ans.
Pourquoi votre fille a eu le statut de réfugiée mais pas vous?
Parce que ma fille, son dossier était dans la convention de Genève, je crois. C'était à cause de l'excision. Et c'est ce qui se passe chez nous au pays.
D'accord, merci.
Avec plaisir.
Nous vous laissons maintenant à l'écoute de Black M, Je suis chez moi.
Tout le monde me regarde, à travers mon innocence je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi, mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle, mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée.
Je t'ai pas dit? J'ai une astuce pour moins payer d'impôts. Ouais, enfin une combine. Ouais. Non mais je peux pas t'en parler là, mais ouais.
Je paye mes impôts moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. J'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français.
chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'embrasser. Je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser.
Les derniers papiers que nous allons écouter sont ceux de Lucie, Alicia R, Victoria et Marion.
J'ai une amie, Léa, qui m'a raconté avoir été mangée chez sa tatie et son tonton, avec ses parents, son frère et sa sœur à Montréal du Gers, à la campagne, dans une maison moderne et grande. En attendant le dessert, ils sont partis dans la chambre de son cousin pour aller jouer. Sauf que quand elle était sur le lit de son cousin, elle s'est roulée sur sa sœur d'une telle violence qu'elle lui a démonté le bras, alors que sa sœur n'avait que 2 ans. Donc, résultat, ses parents ont dû l'amener à l'hôpital à 2h du mat à cause des bêtises de Léa. Malgré tout, Léa a beaucoup paniqué et a eu beaucoup de peur que ses parents l'engueulent. Au final, quand Léa retourne dans la grande chambre assez simple de son cousin, elle repense à ce qu'elle a vécu avec sa sœur et s'en veut beaucoup.
C'est l'histoire d'Emma. Quand elle était petite, elle avait 10 ans. Et elle est allée chez ses voisins dans une grande maison. Emma est allée dans la chambre avec sa voisine. Elles ont eu l'idée de faire une cabane entre les deux lits qui étaient face à face. Elles ont fait la cabane avec des couvertures et des coussins. D'un coup, son frère a débarqué et bim, il leur a sauté dessus alors qu'elles étaient en dessous de la cabane. La couverture servait de toit, donc il leur est tombé dessus, il lui a fait mal au poignet. Du coup, elle a eu une entorse au poignet, ses parents leur ont donc interdit de faire des cabanes.
Voici l'histoire de Emma Medjoub avec un M. Ça se passe en Algérie, à Constantine. En Algérie, ils l'appellent la ville montagne. Et c'est là où habitent ses grands-parents, qu'elle nomme Djedi et Nenna. Leur appartement comporte 3 pièces, ce qui est plutôt restreint car ils sont 15 à y vivre. Donc le soir, ils dorment dans la cuisine et dans le salon. Son oncle dort sur la table en général. Et ils mettent des couvertures pour dormir par terre. Et il fait extrêmement chaud. Ensuite, elle va chez les parents de sa belle-mère, qui eux ont une immense villa au bord de la mer. Et ils habitent à Mostagamen, dans le quartier de Sidi Medjoub. Elle trouve ça drôle car ils habitent dans un quartier qui porte son nom de famille. La villa comporte 18 pièces immenses et ils habitent à 2. Sur le toit, il y a même une piscine et il y a des énormes baies vitrées. La villa fait 4 étages. Elle trouve ça injuste car du côté de son père, ils sont 15 dans un 3 pièces, alors que du côté de sa belle-mère, ils sont 2 pour un 18 pièces. Mais elle adore cette maison car elle est grande et elle est face à la mer. Du côté de son père, à cause du manque de moyens, son frère est mort à cause d'un caillou qu'il a pris sur la tête. Il a fait une hémorragie interne. Elle m'a raconté que des fois, son père était obligé de aller chez sa tante pour manger car il n'avait pas de sous et que son père n'a jamais été à l'école.
Je vais vous raconter l'histoire de Samantha, une amie de toujours. Alors, dans son ancienne maison, à Sainte-Gemme dans le Gers, le lendemain du réveillon de Noël, Samantha, ses parents, ses frères et sa sœur ouvrent leurs cadeaux et son petit frère Esteban a eu un quad de bleu. Elle voulait aller l'essayer. Alors elle a demandé à sa famille d'aller en faire dans le champ à côté de chez elle. Ils avaient pendant 2-3 heures et tout d'un coup plus d'essence. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils n'avaient plus d'essence et ils étaient obligés de rentrer. Mais bon, après malgré tout, ils sont rentrés prendre un petit goûter pour quand même finir la journée en beauté.
Qui n'a jamais rêvé de la vie de château ? Marion, Lucie, Léa et Alicia N. Elles ont eu la chance d'y goûter le temps d'un reportage. Nous vous écoutons, Lucie et Léa.
Bonjour, Léa, Marion, Alicia et moi avons eu la chance de découvrir le château de Bouvet qui se situe à Mauvezin.
Quand nous sommes arrivés, nous avons aperçu un immense château avec une tour et une chapelle un peu cachée par des arbres.
Nous avons pu passer 1 heure avec le châtelain Yves Corvézier qui est passionné depuis son enfance.
Il a commencé à l'âge de 25 ans à acheter un manoir en Bretagne qu'il a restauré puis revendu.
Il a acheté ensuite d'autres bâtisses de plus en plus grandes pour finir par ce château de Bouvet qu'il a acheté au célèbre acteur Jacques Dufilhault.
Cela fait maintenant 20 ans qu'il rénove les 13 pièces du château qu'il nous a fait visiter.
Yves Corvézier nous a ensuite montré la yourte qu'il a construite lui-même et où il trouve refuge pendant l'été et quand il loue son château.
Nous vous laissons nous suivre dans cette visite.
Sur le thème d'habiter le château.
Nous sommes arrivés au château de Bouvet. Il a l'air grand.
Bonjour. Bonjour. On commence par la chapelle.
On vous suit.
Chapelle, parce qu'en fait, dans un château qui a été construit, qui a été financé par un évêque, l'évêque de Saint-Julien, qui est l'évêque d'Ers-sur-Indour, qui est un endroit de l'autre côté du Gers, à 70 km d'ici. Voilà, donc il a financé le château avec ses deniers, et il y a une belle chapelle, alors qui est près de la porte d'entrée du château. Il y avait un pont-levis à l'extérieur. Hein. La chapelle est près de la porte près du pont-levis, parce que c'est aussi une défense spirituelle.
Pourquoi avez-vous choisi de vivre dans un château ?
Alors l'idée de départ, en fait, c'est que il y a un peu plus de 20 ans, j'allais dans des chambres d'hôtes. J'allais dans des chambres d'hôtes en Bretagne. Et en Bretagne, c'est pas des châteaux, c'est des manoirs, mais c'est la même chose. Et du coup, en allant dans ces chambres d'hôtes, ça m'a donné envie d'aller de vivre dans un château. Et puis après, il y a un autre truc, c'est que les filles, elles jouent à la poupée, donc souvent elles font des bébés. Et les garçons, ils jouent avec des voitures. Des bateaux, des châteaux aussi. Et moi, je joue avec des châteaux. Voilà, donc du coup, ça m'est resté. J'ai encore un château. Voilà, du rêve d'enfant, ça devient un rêve d'adulte.
Quels sont les avantages de vivre dans un château ?
De l'espace, et encore de l'espace. Et puis après, c'est un petit peu un lieu original aussi, quand même.
Et les inconvénients ?
Il y a beaucoup d'espace. C'est aussi un avantage et un inconvénient, dans le sens où il faut tout entretenir. Et donc, il y a toujours du travail. Et puis, quand tu as fini de restaurer dans un coin, il faut recommencer dans un autre coin parce que, avec le temps, le château il continue à vieillir. Voilà.
Pourquoi vous avez choisi de louer des chambres d'hôtes au lieu de garder le château pour vous ?
Louer les chambres d'hôtes, c'est une manière de partager le château et puis c'est aussi une manière de le rentabiliser. Parce qu'imagine qu'un château comme ça, ça coûte quand même en chauffage, en taxes, en électricité, en tout, en entretien. Donc le chambre d'hôte, c'est un moyen de rentabiliser le château, de payer les charges.
Qu'est-ce que vous apporte ces locations ?
Le fait de pouvoir garder mon château, je pense que si je n'avais pas ces locations, je n'aurais pas les moyens de le garder. Parce que il faut être très très riche, ou alors il faut avoir un travail, plus les chambres d'hôtes, ce que je fais.
Proposez-vous des activités ?
Alors ici, ce n'est pas moi qui les propose, mais je les accueille. Il y a des activités de bien-être qui se passent chaque fois qu'il y a un week-end organisé ici. C'est du yoga, c'est de la réflexologie, de toutes sortes de formes de thérapie, d'art-thérapie, de danse, qui se passe dans une salle que je vous montrerai tout à l'heure.
Participez-vous aux activités ?
Au début, oui, je le faisais, mais plus maintenant. Parce que sinon, ce serait tout le temps de faire ce genre d'activité.
Avez-vous plus ou moins de monde en fonction des saisons ?
Eh oui, forcément, quand il fait beau, il y a plus de monde. Et puis l'hiver, c'est là en ce moment où il y a le moins de monde.
Dans l'avenir, pensez-vous garder le château ?
J'aimerais bien, tant que j'ai la santé pour l'entretenir, parce que il faut pouvoir monter sur les toits pour mettre les tuiles, il faut pouvoir travailler, restaurer tout le château, donc ça demande de l'énergie. Et bon, tant que j'aurai cette énergie, oui.
Vous avez combien de terrain à entretenir ?
3,5 hectares. Et en fait, ce n'est pas moi qui l'entretiens, c'est mes ânes. Je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des ânes dans le terrain dehors. On continue.
Comment vous vous organisez pour l'entretien du château ?
Chaque jour, ça peine. Donc, à chaque jour, il faut faire quelque chose. L'entretien du château, c'est tous les jours, tout le temps. Quand je loue l'été, c'est loué du samedi au samedi. Donc, les gens partent à 10h le matin et les nouveaux, ils arrivent à 4h l'après-midi. Donc, ça me donne 6h pour nettoyer tout le château. Donc, je prends une personne pour m'aider, une femme de ménage, enfin un agent d'entretien. Et à nous deux, on fait tout le château en 6h. Voilà. Y compris le nettoyage de la piscine qui est dehors, Et un petit coup dans les espaces verts aussi. Et le chauffage, c'est une chaudière à granules de bois. Donc c'est une chaudière automatique, elle n'est pas là, elle est de l'autre côté, dans une pièce à côté. Hein. C'est un chauffage central à granules de bois. Donc c'est le chauffage écologique et économique. Ça, c'est ma chambre.
Ah, d'accord.
Parce qu'en fait, l'été, je loue le château entièrement. C'est-à-dire sous forme de gîte, je donne les clés et je loue à la semaine sur un site qui s'appelle Abritel. Et bon, c'est souvent des Anglais qui louent le château. Et du coup, moi, je vais habiter l'été dans ma yourte que je vous montrerai tout à l'heure. Alors celle-là, c'est la plus belle chambre du château. Hein. C'est la chambre avec une voûte en ogive, la cheminée du 19e. Et les terres cuites en forme de triangle assez particulières sont du 16e siècle. Et quand j'ai du monde en hiver, c'est une chambre qu'il faut que je chauffe déjà 2 jours avant que les gens arrivent. Parce que les murs, ils font plus d'un mètre d'épaisseur. Et du coup, l'inertie, la chaleur qui s'accumule dans les murs, elle doit rester. Sinon, c'est du froid qui est restitué. Ouais. Donc, il faut chauffer au moins 2 jours avant. Allez, venez, enfile à la yourte. Bon, on va ressortir par là. L'idée, c'est la yourte mongole, sauf que celle-là, elle est particulière, c'est une yourte gersoise, puisqu'elle a été fabriquée dans le Gers. Elle a été fabriquée à Estipouille, c'est près de Mirande. Et avec mon fils, on est parti pendant une semaine dans une entreprise où on paye pour fabriquer notre propre yourte. C'est de l'autoconstruction. Donc on a fabriqué tous les bois. Vous allez voir, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est en bois, on a fabriqué. Et après, il y a une couturière qui a quand même fait tous les tissus autour. Voilà. Donc ça, c'est ma résidence d'été. Ça sert, quand je loue le château, à habiter quelque part. Pas me retrouver SDF. Ce serait dommage pour un châtelain. Voilà. La cuisine d'été, qui s'ouvre comme une vraie cuisine, sur la terrasse. Voilà.
Pourquoi avez-vous choisi une yourte ?
Bah, la yourte, c'était quand même facile à construire, enfin rapide. Et puis aussi, c'est l'habitat léger. Donc normalement, ce n'est pas considéré comme une habitation. Au-delà d'une certaine surface, jusqu'à 34 mètres carrés, on n'a pas besoin de permis de construire.
Ce qui fait que vous vous sentez bien dans la yourte ?
Mais écoute, c'est cosy quand même. Il y a de l'espace, il y a du volume. Et puis le fait que ça soit circulaire aussi, peut-être il y a quelque chose de rassurant dans le cercle. Comme dans la hutte, comme dans un tipi.
Et voilà, c'est la fin de cette émission qu'on a eu le plaisir de faire, accompagnée de Madame Zouria et Monsieur Rouziès.
On tenait aussi à remercier Lucie et Léa, qui ont été en charge de faire le conducteur.
Lucie, Flavie et Léa ont gentiment fait le jingle, l'habillage et le générique de cette émission.
À la technique, nous avions Marion et Angelina. Merci à elles.
Et pour terminer, pour le lourd travail de montage des reportages, nous pouvons remercier Clémence, Victoria, Marion et Samantha.
Sans oublier Emma, Alicia N et Alicia R.
Nous remercions aussi M. Gérard Vives qui nous a reçus dans sa maison, Joséphine, Mère Agnès et Jacqueline que nous avons rencontrés à la maison de retraite, mais aussi M. Yves Corvézier qui, pour nous avoir fait découvrir son magnifique château, et Tiffen Badork et toute son équipe qui nous ont aussi bien accueillis au CADA.
Merci à vous toutes et tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Mais pour nous, une longue semaine enrichissante se termine.
Au revoir !
On a bugué.